Merci. Je vais être assez bref pour donner la parole à la salle. J'ai lu le livre, je pense que j'ai tout compris, c'est pas évident, mais je pense que j'ai tout compris. En particulier, à un moment donné, Vivien Lévy-Garbois a parlé de névrose en disant que c'était l'opposition entre le surmoi et le moi. J'avais compris que c'était l'opposition entre le ça et le surmoi, la névrose. Bon, c'est juste un détail pour vérifier que j'ai bien compris. Pas tout, mais j'ai compris. Alors, je vais faire une intervention en trois points. Le premier point, c'est qu'effectivement, le livre est très séduisant quand on aborde toute cette partie, cette organisation. Moi, j'appartiens à une génération qui a fait de l'économie aussi, où ce qu'on voulait caler sur l'économie, c'était la thermodynamique. Donc, on avait l'entropie à certains endroits, puis on interprétait. Bon. Et après, on se heurte à deux déceptions, à mon avis. La première déception, c'est que les outils en tant que tels sont pas tellement utilisés après dans l'explication des crises. C'est-à-dire, on les voit un peu disparaître. Je trouve que le chapitre sur la démocratie est passionnant. Il y a en particulier un test pour savoir si le fait de quelle est la première lettre d'un pays, est-ce que ça conditionne son degré de démocratie? Et la réponse est non. Et donc, je trouve ça assez rassurant, quelque part. Et donc, il y a d'autres tests qui montrent qu'effectivement, son passé colonial n'impacte pas son... Mais cette idée qu'effectivement, une façon de vérifier un certain nombre de réalités, c'est de passer au quantitatif. Et là, donc, c'est ma première... Je dirais, une fois qu'on a défini des éléments, des concepts, c'est quelle est la capacité à vérifier la pertinence de ces concepts de façon quantitative. Quelle est l'unité de moi? Quelle est l'unité de surmoi? Quelle est l'unité de ça? Quelle est l'unité de professeur? Et en particulier, quand on passe au quantitatif, on dit le professeur, et on explique bien dans le livre que le professeur va apparaître être l'académique qui va produire une capacité pour le ça à comprendre ce qui se passe. Bon, il y a des professeurs dans la salle. Est-ce que vous connaissez deux professeurs d'économie qui disent la même chose? Donc, le professeur, c'est qui? Il y a les professeurs. En permanence, le professeur produit une pensée confuse qui est inutilisable. Et donc, à partir de ce moment-là, quelle est la capacité que va avoir le ça à récupérer le professeur? Et donc, cette capacité qu'il a, encore une fois, c'est qu'on ne peut pas quantifier, hiérarchiser, organiser dans ses concepts, à mon avis. Et donc, ça, c'est une première interrogation que j'ai. C'est, encore une fois, je sais ce que c'est qu'un déficit de balance des paiements courants, j'arrive à le mesurer. J'arrive pas à mesurer objectivement l'impact de chacun des acteurs les uns sur les autres. Donc, c'est un peu la question que je pose au rédacteur, c'est comment après, avec comme deuxième conséquence, c'est que Freud, dans sa construction intellectuelle, débouchait sur une thérapie. C'est-à-dire, derrière ça, derrière le tout de la construction intellectuelle de Freud, il y a une thérapie. Et donc, pour qu'il y ait une thérapie, il faut qu'il y ait un malaise, ça, je suis d'accord. Donc, on identifie le malaise, et puis il faut qu'il y ait un état. Alors, je sais bien que la plupart des psychanalystes se débrouillent pour qu'on ne soit jamais guéri. Donc, c'est même le principe de base. Néanmoins, il y a quand même une logique dans la psychanalyse. On fait une thérapie. Quand on va voir un psychanalyste qui vous reçoit, il vous répond en disant, vous allez faire une thérapie. Donc, il y a un malaise, et il y a un état à partir duquel, normalement, le psychanalyste est en situation de vous dire « vous êtes guéri ». Et donc après, vous avez une question qui est de savoir est-ce que vous partagez son opinion, ou le psychanalyste va vous dire « c'est plus la peine de venir ». Et donc, la vraie question, c'est où est la thérapie? Et deuxièmement, par rapport à ça, à quel moment on peut considérer qu'un état économique est un état normal? Si il y a un malaise, à partir de quel moment un état économique atteint sa normalité, sa... Bon. Alors je dis ça d'autant plus volontiers que, encore une fois, je le répète partout, donc certains d'entre vous ont peut-être entendu ce propos de ma part, mais je n'ai jamais vécu dans aucune société et à aucun moment où nous n'étions pas en crise. On a parlé de crise financière, de crise de l'euro et de crise qui s'accumule depuis 20 ans, mais moi quand j'ai été conscient, il y a eu la crise de la livre sterling de 1967, il y a eu la crise inflation de 1963 avec le plan de stabilisation, il y a eu la crise de 1958, il n'y a eu que des crises. Et je n'ai jamais été confronté à aucun prince, puisque c'est le prince qui est porteur de ce message, qui me dise « la situation est normale ». La seule fois où je le dis, je le répète, d'ailleurs, c'est le général de Gaulle, le 31 décembre 67, qui, présentant ses vœux à la population française, a dit « maintenant, ça y est, la situation est sereine, est apaisée, tout ça, les élections ont eu lieu, et donc je sens que l'année 68 sera une année sereine ». Bon, alors on peut considérer que effectivement l'état de normalité, c'est 1968. À ce moment-là, on est quand même assez loin, hein, quand même, 68, rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vécu. Je vois qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui l'ont vécu. C'était folklorique, mais tu l'as dit, c'était quand même un moment de rupture, 68, et un moment d'explosion de ce que vous avez appelé le ça. Pour finir sur ce thème-là, ma question, c'est vérifier des concepts, c'est pouvoir les quantifier, à mon avis, et donc il n'y a pas de quantification possible de cette organisation intellectuelle qui, encore une fois, est intellectuellement très séduisante. J'ai essayé de comprendre, donc j'ai lu ça, et encore une fois, moi je trouve ça assez construit sur le plan intellectuel. Mais où on mesure les concepts et où est la thérapie? Et si où est la thérapie, où est la normalité? Alors après, on en arrive à ma deuxième remarque par rapport à ça, c'est dans les crises qui sont analysées, dans la présentation qui est faite, le ça, c'est une espèce de pulsion. Donc, il y a une forme de hiérarchie implicite où il y a une forme de noblesse, le prince, le professeur, il y a le gendarme qui est le prêtre, Et puis, il y a l'être, la pulsion, le cerveau reptilien. Et c'est le producteur. C'est-à-dire, c'est le chef d'entreprise, c'est le mec qui travaille. En fait, il y a, alors, une question là aussi, c'est, est-ce qu'il n'y a pas, dans cette présentation, une forme de déformation un peu de haut fonctionnaire? C'est-à-dire, le haut fonctionnaire est le prince, il est associé au professeur, qui a l'intelligence, le logos, la raison, et avec en face de lui une espèce de magma, de gens un peu primitifs, à qui on va imposer une espèce de responsabilité sociale de l'entreprise. On va leur venir de l'extérieur, on va essayer de les encadrer, de leur dire... Mais qui sont fondamentalement des gens qui représentent un état assez primitif de la production intellectuelle. Bon, je pose là aussi la question, est-ce qu'il n'y a pas une espèce derrière tout ça? Sachant que moi, à titre personnel, je suis sur la ligne de cet article célèbre de Milton Friedman qui dit que business of business is business. C'est-à-dire l'objectif du producteur, c'est de faire des affaires. Ça ne veut pas dire que intellectuellement, le producteur soit moins, comment dirais-je, soit moins moral que le prêtre, soit moins intelligent que le professeur. Alors si vous relisez cet article, il y a un passage où Friedman fait allusion à l'histoire du bourgeois gentilhomme. Et alors, on voit bien que Friedman ne connaît pas l'histoire du bourgeois gentilhomme, il pense que c'est un roman, et il dit simplement, il ne connaît pas l'histoire de la prose et du... Il ne sait pas très bien. Ce qu'il a retenu du bourgeois gentilhomme, c'est que la France est un pays qui a un problème parce que, dans la littérature, le bourgeois veut devenir gentilhomme. C'est-à-dire que le bourgeois a honte d'être un bourgeois, et que dès qu'il a la possibilité, il cherche à quitter ce statut de bourgeois pour devenir gentilhomme. Et donc il dit, un pays qui fonctionne intellectuellement comme ça est un pays qui est en train de passer à côté de son destin. Et donc la question que je me pose, mais encore une fois, c'est une question à laquelle on peut débattre, c'est est-ce que finalement c'est pas Friedman qui avait raison? Est-ce que votre construction intellectuelle consiste pas à dire il vaut mieux être gentilhomme parce qu'on est le prince, parce qu'on est le professeur, et que d'être le ça, une espèce de bloc producteur. Alors, en plus, bon, je parle dans une école de commerce, j'espère que les mannes qui tournent autour de moi vont me soutenir, mais donc je pose cette question aussi, je vous demande de répondre, je pense que vous allez me dire, mais pas du tout, on respecte le producteur, on est très admiratif des entrepreneurs, mais quand même, votre construction intellectuelle appelle ce genre. Alors, troisième remarque sur la croyance et sur l'analyse que vous faites des crises. Alors, je vais pas... la croyance qui est invérifiable, enfin, il y a quand même une partie de la croyance qui est vérifiée par certains, dont on sait qu'elle est fausse, et une croyance fausse vérifiée par certains, ça s'appelle une escroquerie. Hein. Donc, au 19e siècle, avant Freud, on aurait été assez simple et assez direct, et on aurait appelé ça des escroqueries. Il y a toujours eu des escrocs dans la crise financière, il y a aussi Enron dans la... Bon. Ce que je crois dans cette dynamique-là, pour en revenir à l'euro, c'est un problème. Effectivement, alors là, je suis assez d'accord, je suis pas d'accord avec les pères fondateurs. Pour moi, les pères fondateurs, De Gaulle n'est pas un père fondateur de l'Europe. Les pères fondateurs de l'Europe, c'est Schuman, Adenauer et Gasperi. Et ce que je trouve intéressant dans les trois personnalités, c'est que Schuman était français, mais il était né au Luxembourg parce qu'il était lorrain et que ses parents voulaient pas. Mais il était allemand. Adenauer a toujours refusé de se faire faire un papier prussien. Et De Gasperi avait été ministre de François Joseph. Et quand il est devenu ministre en Italie, on lui a dit « Vous avez jamais été ministre ?» Il dit « Si, si, sous François Joseph. » Et donc, c'était des gens qui avaient eu un rapport à l'Europe... C'était un rapport, non pas de réconciliation, c'est pas vrai, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de guerre. Avec les Américains au-dessus, il ne pouvait pas y avoir de guerre. C'était des gens qui vivaient, pour moi, l'Europe, non pas en réconciliation, mais en sublimation de ce qui s'était passé, en dépassement de ce qui s'était passé. Et donc, ils avaient une vision dans laquelle il ne s'agissait pas d'éviter la guerre, il ne s'agissait pas d'avoir la paix, il s'agissait d'être européen. Pourquoi je dis ça par rapport au schéma? C'est qu'est-ce qui s'est passé dans la crise de l'euro? Que ce soit ou non une zone monétaire optimale, à titre personnel, je pense que ça n'a aucune importance. L'article 123 du traité ne dit pas qu'il est interdit à la Banque centrale d'acheter de la dette, sinon effectivement, le mot « putsch » est un mot qui est d'actualité, et j'espère que dans ce pays, en Europe, plus personne ne fait de putsch. Si Monsieur Draghi trahit les traités, mais à ce moment-là, les 4 ou 5% de gens qui ont fait ont raison, il faut le déférer devant les tribunaux. La loi, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une base de négociation. Un traité, ce n'est pas une base de négociation. Dans ce que dit l'article 123, c'est que la Banque centrale n'achète pas la dette publique. Elle la rachète, suivant des codes qui sont définis. Donc, le véritable enjeu n'est pas là. Le véritable enjeu n'est pas de savoir si c'est une zone monétaire optimale ou pas. Je prendrai juste un exemple là-dessus. Au moment de la crise de la Grèce, il y avait la crise du département de Seine-Saint-Denis. Et donc, il a été dit, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait un léger différentiel de taux entre la dette publique grecque et la dette publique allemande en 2007. La dette publique allemande était à 4,6 et la dette publique grecque, en juillet 2007, était à 4,7. Vous prenez la dette de la Seine-Saint-Denis, elle était à 5,2. Donc la Seine-Saint-Denis était plus potentiellement en désaccord et en rupture par rapport au bloc européen que la Grèce. Alors vous me direz, oui, mais il y a des transferts fédéraux vers la Seine-Saint-Denis. Je ne vais pas insister, mais si vous regardez, la Seine-Saint-Denis est un département qui dégage des excédents extérieurs. C'est-à-dire que ça exporte des produits qui ne sont pas forcément enregistrés dans la comptabilité de la Seine-Saint-Denis, mais qui ont une forte valeur ajoutée. Il suffit d'aller se promener en Seine-Saint-Denis à partir d'une certaine heure, et vous avez... évidemment, ça génère pas, comme en Grèce, beaucoup de fiscalité. Mais c'est des produits qui rapportent beaucoup. Et donc la Seine-Saint-Denis dégage un excédent extérieur. Bon. Et donc la Seine-Saint-Denis avait une forte dette publique, avec un fort excédent extérieur, et des mécanismes de transfert. Quand vous regardez l'équilibre, la Seine-Saint-Denis, ça paie le Quai d'Orsay, ça paie mon salaire à moi, parce que j'habite pas en Seine-Saint-Denis, je travaille pas en Seine-Saint-Denis. Donc en équilibre, c'est plutôt en situation de subventionner la capitale. Donc les transferts fédéraux, bon, donc Monsieur Bartolone, à l'époque président de la Seine-Saint-Denis, du Conseil Général, a dit « ils m'ont pas envoyé le FMI à moi », parce qu'ils avaient envoyé le FMI en Grèce. Et donc, le problème, c'est pas un problème de croyance. Parce que croyance, c'est quelque chose que l'on croit. Mais personne ne croyait qu'on allait envoyer le FMI en Grèce, puisque la question ne se posait pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des événements surviennent, et ces événements qui surviennent, ils ne sont pas des croyances, parce qu'ils n'existaient pas dans le cadre intellectuel dans lequel on raisonnait. Ils arrivent à un moment donné brutalement. Et donc, personne n'avait à se poser la question de savoir est-ce qu'on va envoyer ou non le FMI en Grèce. La question ne se posait pas, vous ne posez pas la question tous les jours de savoir est-ce que le FMI va venir dans le 15e arrondissement de Paris ou est-ce que le FMI va venir en Seine-Saint-Denis. C'est quelque chose qui vous ne posez pas cette question. Et donc, je pense que là aussi, vous avez un problème dans tout ça, c'est un positionnement dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se poser des questions et ces questions, effectivement, elles apparaissent de façon, je dirais, contingente. Mais il n'y a pas une structuration permanente de ce bloc que vous appelez des croyances. Donc si je résume mon point de vue, encore une fois, je suis là un peu pour faire l'avocat du diable, je recommande la lecture de ce livre et je recommande toute cette construction intellectuelle parce que c'est fascinant une construction intellectuelle. Mais moi, je reviens à mes trois critiques. Où est la thérapie? Où est la quantification? Concrètement, quelle est la recommandation qui est derrière? Et donc c'est pour moi le noyau dur. Et deuxième question, de façon alors là, dans l'inconscient. Et donc, c'est mon inconscient, moi, qui parle peut-être. C'est ma hiérarchie dans mes ça, des moi et des sur-moi personnels. Est-ce que, quelque part, le prince, les choses un peu nobles de votre schéma, c'est pas des fonctionnaires, et les choses, la pulsion reptilienne, c'est pas des producteurs. Ça s'appelle les producteurs. Est-ce que c'est pas des gens du privé? Est-ce que, dans votre inconscient à vous, c'est une question que je vous pose lorsque vous regardez, est-ce qu'il n'y a pas votre bon vieux réflexe de haut fonctionnaire qui a guidé votre plume? Merci, j'espère que vous me répondrez avant qu'on donne la parole à la salle.